Sur ma route, sur RTV FM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'RTV FM. Ravi de vous retrouver dans cette émission sur ma route, réalisée, donc vous venez de l'entendre, en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Pour cette émission, je serai accompagné d'Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités, nos deux invités du jour, donc Antoine Ruiz, consultant en sécurité routière en Vaucluse et intervenant départemental de la sécurité routière, bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons aussi Paul Roche, gérant et moniteur de l'auto-école Marco Polo à Carpentras et Sarian. Bonjour monsieur Roche.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté notre invitation, en tout cas pour cette émission sur ma route.
Avant de commencer cette émission, nous aimerions en connaître un petit peu plus sur nos invités. Tout d'abord, avec monsieur Ruiz, quel est le rôle et les missions d'un consultant et intervenant départemental de la sécurité routière ?
Alors donc, ce sont deux casquettes différentes. En tant qu'intervenant départemental sécurité routière, j'interviens au nom de la préfecture de Vaucluse sur des actions de pédagogie, de communication, notamment lorsqu'il y a des gros événements autour de la sécurité routière, mais aussi parfois dans des établissements scolaires. En tant que consultant en sécurité routière, là, c'est autre chose, je m'adresse essentiellement à des entreprises lorsqu'il s'agit de les accompagner pour la mise en place et le suivi de programmes de prévention des risques routiers. J'ai aussi une partie de mon activité qui me permet d'intervenir en voirie, en aménagement routier. Et puis, j'effectue aussi des stages de formation pour les enseignants de la conduite automobile.
Merci, monsieur Ruiz. On va maintenant continuer avec monsieur Roche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'auto-école Marco Polo ?
Bien sûr, oui. Donc, l'auto-école Marco Polo donc est présente bien sûr sur les permis voiture, permis B classique, donc conduite accompagnée, donc conduite supervisée. On a aussi une grosse activité sur le deux roues, donc sur le permis moto A2, ainsi que les passerelles A, ainsi que les formations 125-7 heures. Aussi le permis AM, donc l'enseignement BSR. On a aussi l'activité stage récupération de points. Et aussi, donc, nous avons l'activité permis remorque.
Pour débuter, pour vous, qu'est-ce que le civisme au volant ?
Monsieur Roche, monsieur Ruiz.
Pour moi, c'est synonyme d'être citoyen de la route. C'est-à-dire que la route, c'est un lieu collectif, un lieu qu'on partage, un peu comme tous ces lieux publics où on rencontre d'autres personnes. Se comporter comme un citoyen, c'est d'être attentif aux autres, c'est d'être plus dans le partage de la route que dans l'appropriation de cette route-là. Donc, pour moi, le civisme sur la route, c'est partir d'un point de vue collaboratif. Voilà, on n'est pas sur la route contre les autres, on fait avec les autres. Parfois, on les aide, on leur donne des petits coups de pouce. Vous avez tous eu l'occasion de rattraper l'erreur de conduite d'un autre usager, voilà, qui vous remercie, qui vous demande pardon parfois, etc. Bah, c'est ça aussi le civisme. C'est plutôt fonctionner en groupe et en société.
Et est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec ça, M. Roche ?
Oui, tout à fait, c'est bien résumé. La voiture est un lieu fermé, donc c'est vrai qu'on est un petit peu seul dans notre véhicule. On essaie par l'apprentissage maintenant. Donc depuis quelques années, dans l'apprentissage, on a mis en place certaines choses dans l'apprentissage pour justement être plus courtois, donc avoir des actions civiles aussi au niveau de nos jeunes conducteurs. Et d'ailleurs, on a mis donc sur la notation, sur la grille de notation du permis de conduire, il y a un point de courtoisie. Donc il y a un point de courtoisie, chose qui n'était pas pensable il y a quelques années. Donc c'est preuve qu'on s'occupe plus de ce genre de choses. Ouais.
Donc c'est un moyen peut-être de faire prendre conscience aux jeunes des différents risques présents sur la route. Ça en fait partie ?
Ça peut, oui, ça peut, oui, bien sûr. On s'aperçoit que la perception de l'environnement, donc le comportement des conducteurs est très important, et c'est pour ça que on essaie de développer ce genre de comportement au volant, oui, tout à fait.
Alors, quelles sont les plus grandes incivilités qu'on relève encore, en tout cas, de nos jours ? Peut-être monsieur Ruiz, est-ce qu'il y a des incivilités plus que d'autres ?
Pour le Vaucluse, effectivement, on a des études régulières et des statistiques locales qui permettent d'avoir un recul là-dessus. Alors, ce qu'on appelle souvent incivilité, ce sont des actes que l'on commet par rapport aux autres. Voilà, il faut juste savoir que dans la plupart des accidents mortels, au moins la moitié d'entre eux, en tout cas dans le Vaucluse, l'accident mortel a lieu seul. Donc il y a beaucoup de violence contre soi-même, si j'ose dire,
oui.
Dans ces comportements-là. Avec l'accident corporel, c'est moins vrai. Dans l'accident corporel, souvent, il y a un tiers qui est impliqué, un autre véhicule, un autre usager qui est autour de soi sur la route. La plus grande incivilité, à mon sens, c'est le fait de ne pas prêter attention à l'autre. On a dans notre département, si on regarde sur les 10 dernières années, et si on regarde par exemple sur les jeunes conducteurs, puisqu'on vient d'évoquer l'éducation routière et les plus jeunes, on sait que ce qui malheureusement est le plus présent dans nos accidents mortels chez les jeunes, dans le Vaucluse, c'est pas l'alcool, c'est pas les produits psychoactifs, etc. C'est les grands excès de vitesse et les dépassements dangereux, les comportements à risque. Donc c'est, on a un taux d'accident au carrefour en particulier, aux intersections, qui est plus élevé que la moyenne nationale. Donc le non-respect de l'autre vient déjà dans le lieu et la façon dont je le rencontre. Voilà. Et donc peut-être qu'on n'est pas assez prêt à croiser les autres. En tout cas, on leur laisse pas suffisamment de place parce que la preuve, ben ça percute, il y a un accident et puis on blesse ou on tue des gens.
Alors là, on a parlé au niveau Vaucluse, mais est-ce qu'au niveau global en France, c'est à peu près la même situation ?
C'est très régional, hein, l'accidentalité, en fait. Il y a presque des habitudes locales ou des comportements qui sont assez locaux, régionaux. On sait que, par exemple, les problématiques liées à l'alcool au volant sont très très fortes dans le sud-ouest. Vous prenez les départements comme le Gers, le Tarn-et-Garonne, et je dois en oublier forcément.
On est habitué à faire la fête, en fait, en quelque sorte. C'est un peu ça,
Alors, faire la fête, non, c'est pas le lien. C'est conduire après avoir fait la fête.
Voilà, parce exactement.
Je pense qu'il y a des fêtards un peu partout. Si vous parlez à un Français, l'alcool volant, il va toujours vous évoquer le petit alcool local, que ce soit le Genépi dans les Alpes ou le Schnapps, enfin voilà, toutes les liqueurs, les bières, les vins, etc., qu'on peut avoir partout en France. La question, c'est est-ce qu'après, on conduit ? Est-ce qu'on prend le volant ? Alors, on remarque que dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, il y a quand même moins de conduite sous alcool, peut-être parce qu'il y a une offre de transport en commun plus élevée, mais pas que. Il y a aussi des habitudes. Voilà. Et les habitudes, ça peut être très fort.
Monsieur Roche, est-ce que vous constatez, en tant que moniteur aussi d'auto-école et gérant, des incivilités quand vous êtes au volant, justement, avec vos jeunes, les personnes que vous recevez au quotidien ? Est-ce que vous constatez aussi ces incivilités ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Ben, on est toute la journée forcément en voiture avec nos élèves. Et on s'aperçoit que parfois les gens perdent patience. Lorsqu'on cale, par exemple, au feu rouge, on se fait klaxonner, ce qui n'est pas tout à fait confortable pour nos élèves apprenants, bien sûr. C'est vrai que les gens sont toujours pressés en voiture, les gens veulent aller toujours plus vite. Et c'est vrai, on transgresse les règles, donc on fait moins attention, on observe moins. Voilà, c'est ça, l'incivilité, c'est ne pas respecter les autres, ce que disait mon collègue Antoine. Donc oui, bien sûr, on s'aperçoit de ça toute la journée dans nos voitures auto-écoles, et pas que, même quand on est dans une voiture.
Monsieur Roche et Monsieur Ruiz, comment faire en sorte que les conducteurs se rendent compte de leur incivilité et qu'ils changent leur habitude et leur attitude au volant ?
Alors, je dirais que c'est un comportement assez français, quelque part. On pourrait comparer à d'autres pays, forcément. Je pense que ça passe déjà par l'éducation, déjà par l'école. Déjà, ça commencerait très, très tôt. Donc, voilà. Puis, après, ouais, c'est vraiment prendre ça très jeune, je pense, que ce serait la solution.
Monsieur Ruiz.
Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis les années 90, la France a mis en place un continuum éducatif. Aujourd'hui, les enfants, ils passent ce que souvent on appelle un permis piéton, une attestation de première éducation à la route, et puis après, plusieurs attestations dans le cursus scolaire. Néanmoins, malgré toute cette volonté pédagogique, on sait que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs, et l'exemple parental peut très bien défaire tout ce qu'un système scolaire peut mettre en place. Donc on essaie aussi de sensibiliser, depuis des années, hein, de sensibiliser les parents. Vous avez peut-être vu certaines campagnes, notamment des assureurs prévention, qui disent aux parents d'être des bons modèles, et que ce ne sont pas normalement nos enfants qui sont censés nous rappeler les règles.
Donc il y a un rôle de sensibilisation, d'éducation, on l'a bien dit. Donc malheureusement, l'école ne peut pas tout faire, on est d'accord. C'est aussi les parents à réaliser ce travail, en tout cas à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut lancer peut-être en ce moment, surtout on va parler en période actuelle sanitaire avec notamment la Covid, est-ce qu'il faut lancer un appel au civisme à tous les conducteurs en cette période difficile, afin, bon ça paraît logique, d'éviter au maximum les accidents au vu des hôpitaux déjà surchargés? Je pense que c'est plus que logique de passer ce message.
Oui, ce serait un message de civisme qui serait évident. Cependant, il ne faut jamais oublier un biais psychologique qui est classique. Les conducteurs qui sont les plus à risque souffrent tous de ce qu'on appelle le biais d'optimisme comparatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils se trouvent toujours meilleurs que les autres. Donc le conseil peut très bien ne pas les toucher et ils vont croire que ça va toucher les autres et pas eux. La question est toujours la même. Hein. Si je me trouve meilleur que les autres, si je pense vraiment avoir des très bonnes compétences à conduite, est-ce que je vais prendre à mon compte les conseils que je recevrai par les ondes et par les médias ?
Monsieur Roche, y a-t-il eu des réformes récentes du code de la route? Si oui, lesquelles?
Très bonne question, donc notamment dans l'apprentissage du code de la route. Donc on a pas mal de questions maintenant qui portent sur la civilité, donc sur tout ça, le comportement au volant, donc la courtoisie, et c'est vrai qu'on met l'accent là-dessus. Donc on en a parlé tout à l'heure déjà au niveau du point de courtoisie pour la réussite du permis. Donc c'est vrai que ces quelques années, on pousse dans ce sens. Donc avant, il était question de fluidité de la circulation, mais maintenant, on prend plus en compte le comportement des conducteurs et l'évolution au mieux de l'environnement. Tout à fait, oui.
Monsieur Ruiz, est-ce que vous avez aussi d'autres avis sur justement les réformes ou des idées en tout cas sur les dernières réformes qu'il y a eu sur le code de la route?
Alors une des dernières qu'il y a eu, c'est tout ce qui va toucher aux engins de déplacement personnel motorisé. Vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui est trottinette électrique, overboard, etc., fait l'objet d'une réglementation. Voilà, il a fallu réglementer ça. Parce qu'on s'est aperçu que là aussi, le partage de la route avec ses engins motorisés, ben, ça posait problème. Donc il a fallu le réglementer. Il y a quelques mois en arrière, on a aussi rajouté une action de pédagogie pour tous les jeunes conducteurs. Ce qu'on appelle la formation au post-permis novice, ou la formation complémentaire pour les jeunes conducteurs. L'idée, elle est simple, c'est leur proposer de raccourcir leur période probatoire. Quand on n'est pas passé par la conduite accompagnée, une période probatoire, ça dure 3 ans. Mais là, elle peut être réduite à 2 ans s'ils font une formation d'une journée. Et dans cette formation, ben, on va justement les sensibiliser aux risques routiers et les faire réfléchir à leur propre pratique de la route. Voilà, ça, ce sont les quelques nouveautés réglementaires.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir sur ce sujet donc, du civisme. Donc, je rappelle, l'émission sur ma route aujourd'hui, c'est civisme, comportement et respect du code de la route. On va retrouver nos intervenants, donc Monsieur Ruiz et Monsieur Paul Roche, dans quelques instants. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Et de retour dans cette émission Sur ma route, je rappelle que nous sommes toujours avec nos intervenants Antoine Ruiz, donc qui est consultant en sécurité routière en Vaucluse et intervenant départemental de la sécurité routière. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi toujours à nos côtés monsieur Paul Roche, donc qui est gérant et moniteur de l'auto-école Marco Polo à Carpentras et Sarrian. Nous parlons donc de cette émission, je rappelle, donc Sur ma route, civisme, comportement et respect du code de la route. Alexandre.
Monsieur Roche et Monsieur Ruiz, par rapport à la nouvelle formation post-permis novice, quelles en sont les attentes ?
Alors, l'attente la plus forte, c'est d'ailleurs c'est une attente qu'on a depuis très longtemps, depuis qu'on a pensé à ce continuum éducatif. On sait que dans les mois qui suivent l'acquisition du permis de conduire, c'est là que vont se mettre en place des habitudes qui peuvent durer très longtemps, bonnes comme mauvaises. Donc, si on donne le loisir à des jeunes conducteurs de réfléchir, de prendre un peu de recul et de réfléchir à leur pratique de la route et à comment ils se projettent dans un proche avenir, plus ou moins proche d'ailleurs, ça peut être plus loin, ça peut leur permettre de faire des choix. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que la plupart des choix de conduite, on ne les a pas fait consciemment. Moi, je suis d'une génération de conducteurs qui s'est retrouvé rapidement sur la route après un permis de conduire, acquis avec beaucoup d'approximations, on va dire. Les inspecteurs étaient très tolérants à une époque, et les formations étaient beaucoup plus courtes qu'aujourd'hui. Et du coup, on s'est construit comme usager, comme conducteur, avec beaucoup de tâtonnements. Et surtout, on a peut-être reçu aussi des influences dont on n'avait pas la conscience. À l'heure actuelle, il est très important que chaque conducteur, chaque nouveau conducteur, et la conscience des influences qui sont les siennes, pour qu'il puisse aussi, il ou elle, puisse faire des choix pour pouvoir se construire en tant qu'usager et citoyen de la route.
Mais pensez-vous qu'en tant que jeune conducteur, le regard des autres peut influencer votre conduite ?
Encore plus jeune que quand on est moins jeune. En fait, la jeunesse, l'adolescence en particulier, mais même le jeune âge adulte, c'est une période où on est très influençable. C'est vraiment une période où on a besoin du groupe. On a besoin d'appartenir à un groupe, j'allais dire un collectif, une société, on voit bien l'effet des bandes et on voit bien que les copains, les copines, etc., ça peut influencer énormément les jeunes, en bien comme en mal. On voit aujourd'hui, par exemple, beaucoup de groupes de jeunes qui se débrouillent pour nommer des SAM, donc des conducteurs sobres qui ramènent leurs amis qui ont bu. Au départ, c'était peut-être minoritaire et puis finalement, ça a fait tache d'huile. Ça fait boule de neige. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, il y a une influence qui peut être positive. Mais ça peut être aussi négatif. Il se peut tout à fait que l'effet de groupe amène des comportements un petit peu extrêmes, un petit peu délirants. Et que certains, comme ils se sentent obligés de faire comme on leur dit, finalement, concèdent à changer leur comportement. C'est ce qu'on appelle l'influence.
Je vais me tourner vers Paul Roche. Monsieur Paul Roche, pensez-vous que le code de la route est majoritairement assez respecté par les usagers ? Vous devez le voir régulièrement, en tout cas.
Alors, il est enseigné, mais pas toujours respecté, malheureusement. Oui, on s'aperçoit, tout à l'heure, on a évoqué différentes infractions. Et c'est vrai que tout au long de la journée, on s'aperçoit, on relève pas mal d'infractions. Il est respecté en majorité, bien heureusement, mais malheureusement pas assez. Donc au vu des accidents, on peut dire que la principale cause d'accident, c'est le non-respect du code de la route. Donc ce qui prouve bien qu'effectivement...
On a des chiffres sur ça ou pas ?
Ouais, il y a plusieurs études. Je crois que la plus poussée qui a été faite par l'IFSTAR, l'Institut français des sciences, des technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux, pousse à 92% le pourcentage de facteurs humains dans les accidents graves ou mortels. Et dans ce 92%, donc, le facteur humain numéro 1, c'est l'infraction, le non-respect d'une règle du code de la route.
Pour le code de la route, vu qu'il est majoritairement pas assez respecté par les usagers, vous, avec vos jeunes conducteurs, sur quoi insistez-vous le plus ?
Eh bien, on s'aperçoit que la connaissance du code est souvent acquise par nos jeunes conducteurs. Donc après, ce qui est compliqué pour eux, c'est l'analyse, parce qu'ils manquent d'expérience. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est le comportement au volant. Puis on en a parlé tout à l'heure, on disait qu'effectivement, la première année, donc après le permis, les jeunes conducteurs sont assez sensibilisés. Mmh. Et justement, l'intérêt du post-permis, c'est de voir un petit peu l'évolution. Et on s'aperçoit que les années à venir après le permis sont souvent très accidentogènes. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette formation post-permis. Et pour répondre à votre question, donc, c'est vrai que le code de la route est souvent su par les jeunes conducteurs, mais voilà, après, ce qui pêche, c'est le comportement, c'est le manque d'analyse. Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle il faut insister là-dessus. Ouais.
Monsieur Roche, une autre question pour vous. Y a-t-il des formations pour les parents au niveau de la conduite accompagnée pour éviter qu'ils transmettent leur incivilité aux parents ?
Alors effectivement, il n'y a pas de formation à proprement dite, mais dans le cadre de la conduite supervisée ou bien de la conduite accompagnée, les parents sont invités à venir pendant 2 heures, donc en fin de formation, pour leur passer le relais, parce qu'après ils vont être avec les élèves. Donc les parents ne sont pas des formateurs, loin de là. Ils sont là pour faire profiter de leur expérience. Et donc c'est la raison pour laquelle ils viennent assister à 2 heures de formation, donc à la fin de formation. Donc ils viennent voir un petit peu ce qui se passe à l'auto-école et pour transmettre le relais aux parents, pour que ça se passe dans les meilleures conditions pendant ces 2 ans minimum de conduite accompagnée.
Pensez-vous qu'avoir des rappels du code de la route pour tous serait une bonne chose, que l'on soit jeune conducteur ou des conducteurs dits expérimentés ?
Ça dépend ce qu'on veut à la clé. La méconnaissance du code de la route est très rarement, voire jamais, à l'origine des accidents les plus graves. Quand on a des blessés et des tués, c'est parce qu'il y a des excès de vitesse, des refus de priorité, l'alcool au volant, de la drogue, du téléphone, etc. Donc c'est pas tellement la méconnaissance de la règle qui pose problème, c'est beaucoup plus la relation qu'on a avec cette règle. Et le fait qu'on l'applique ou pas et qu'on se l'aménage peut-être, voilà. Donc ce qui serait peut-être pertinent, c'est, alors, certes pour les débutants, pour les gens qui ont besoin de se former, pour passer des permis de conduire, pour préparer des conduites de certains types de véhicules, y compris le vélo par exemple, l'apprentissage de la règle est nécessaire. L'école le fait. Depuis, ça fait déjà des années qu'à l'école, on apprend les règles élémentaires. Vous prenez aujourd'hui un jeune qui arrive dans une auto-école à 15 ou 16 ans, puisqu'on peut commencer à conduire dès 15 ans pour la conduite accompagnée aujourd'hui. À 15 ans, déjà, ils connaissent les règles de base. Il faudra leur apprendre des règles un peu spécifiques, comme le stationnement alterné semi-mensuel, ou la conduite dans les tunnels ou sur autoroute. Mais globalement, ils savent qu'un feu rouge, on s'arrête. Ils savent qu'un panneau stop demande de s'arrêter. Ils savent qu'une ligne continue ne se franchit pas, etc. etc. Si on faisait des choses utiles par rapport au code de la route, ce serait plus de faire réfléchir à pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas telle ou telle règle.
Et les conséquences aussi, peut-être ?
Oui, les conséquences, forcément. C'est souvent comme ça qu'on débute. Quand on fait la sensibilisation au risque routier dans les entreprises, que je fais assez souvent, on part d'abord du constat. Bon, on en est où ? Combien de blessés ? Combien de tués ? Ça coûte combien aux entreprises chaque année, tous ces arrêts de travail et tout et tout ? Et derrière, le dégât humain, qu'est-ce que c'est ? Et être auteur d'un de ces accidents, qu'est-ce que ça donne ? Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'éviter ?
Et est-ce que des fois, le fait que justement les jeunes soient souvent dans la fiction avec la télévision et les campagnes qu'on a vu publicitaire, est-ce que ça a un réel impact de dire il y a eu tant de morts, de montrer les choses finalement ?
Eh bien, dans certains pays, notamment en Angleterre, ils n'hésitent pas à avoir des spots sécurité routière assez choquants. En France, on a plutôt du mal.
Mais est-ce que ça choque pas justement que ceux qui sont prudents et les autres, peut-être, ça les atteint pas ?
Peut-être, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'en France, on a peut-être une méthode plus douce au niveau de nos spots publicitaires sécurité routière. Donc, oui, peut-être, ça serait... faudrait peut-être changer ces méthodes-là, effectivement.
Oui. Parce que si on fait une approche à travers les statistiques, c'est très compliqué. Les chiffres, ça ne parle pas aux gens. Quand vous faites un petit sondage auprès de vos collègues, vos amis, vos proches, vous leur demandez, est-ce que 3244, c'est le nombre de tués de 2019 ? 3244 personnes, est-ce que ça vous parle ? Là, c'est assez compliqué. On a du mal à les visualiser. Déjà, si on dit qu'on est entre 8 et 9 tués par jour, ça fait autre chose. C'est si vous êtes dans un groupe de 8-9 personnes, là, vous pouvez dire, voilà, ça, c'est le quota de gens qui vont disparaître aujourd'hui sur la route. Et si vous passez au nombre de blessés, à peu près 200 par jour, là aussi, est-ce que vous croisez parfois 200 personnes ? Ça vous arrive peut-être. Mais si vous êtes dans une salle de concert, un très grand restaurant peut-être, ou voilà, un lieu public, un grand magasin, on peut avoir 200 personnes réunies. Voilà, se dire que ces 200 personnes vont passer par l'hôpital dans les 24 heures par rapport à la route, ça pourrait peut-être parler, mais c'est compliqué, ça reste des chiffres. Ce qui est un vrai défi en termes de communication, c'est qu'à travers les médias, à travers ce qu'on appelait les masses médias à une époque, c'est-à-dire les médias de masse, effectivement, on a du mal à trouver un message qui va toucher tout le monde. Il faut donc trouver plusieurs biais de communication. Il faut des biais qui soient plus personnels. Et c'est très compliqué de mettre en place des sensibilisations qui vont toucher les gens au compte-goutte, comme ça, éparpillés. Mais on le fait. C'est ce que font toutes les préfectures en France à l'heure actuelle. C'est ce que font les auto-écoles. C'est ce que font les enseignants en collège, en lycée, en école primaire.
Monsieur Roche, avec la mise en place de simulateurs de conduite dans les auto-écoles, voyez-vous des différences de comportement lors des premiers ordres de conduite des jeunes ?
Oui, bien sûr, le simulateur est un bel outil, donc une belle avancée technologique. Bon, on s'en sert pour plein de situations, notamment dans l'aviation. Donc, dans le sport automobile, on essaie de refaire des choses. Oui, c'est très bien. Après, le simulateur a certaines limites, bien évidemment. C'est, l'idée, c'est vraiment donner les bases de l'apprentissage, donc la partie mécanique. Donc je démarre, j'accélère, je lâche l'embrayage progressivement, donc on a cette répétition-là. Après, forcément, on aura un petit un ressenti qui sera un petit peu différent dans la voiture, mais on aura déjà ce savoir-faire qui va vraiment accélérer la formation et qui est vraiment très, qui est très, très bien, je trouve.
Ouais. D'un point de vue psychologique, ça permet de vaincre un certain stress. On sait que beaucoup de débutants bloquent un petit peu sur la partie mécanique de la voiture. Et quelque part, se faire un peu les dents sur le simulateur, sans qu'il y ait de conséquences pour qui que ce soit, bah, ça permet qu'une fois arrivés dans la vraie voiture, ils soient un peu moins tendus.
Oui, effectivement, c'est une approche progressive pour les gens qui n'ont jamais touché un véhicule. Donc effectivement, il n'y a pas ce stress de la route, donc ça permet vraiment de se familiariser avec le véhicule d'une façon plus douce et moins stressante, évidemment. Oui.
Il y a un deuxième intérêt au simulateur auquel on ne pense pas toujours, c'est que ça va permettre aussi de trouver des situations de conduite qu'on n'aura jamais l'occasion d'expérimenter. Notamment en fin de formation, quand on regarde la formation d'un jeune conducteur, il y a quatre compétences essentielles. Et dans la quatrième compétence, c'est là qu'il y a les situations un petit peu à risque, un petit peu les plus complexes. Sur un simulateur, on peut faire de la route enneigée, on peut faire de la route mouillée, on peut vivre le brouillard sur autoroute et du coup faire des freinages d'urgence et ressentir une voiture qui part et qui ne se rattrape plus une fois qu'elle a perdu l'adhérence. Donc voilà, ça peut être aussi des choses qui sont intéressantes à condition qu'on ait envie de l'exploiter.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, des choses qui sont assez marquantes, qu'on a du mal à reproduire avec les jeunes conducteurs, c'est sous l'emprise de l'alcool. C'est aussi assez marquant, dans certaines situations, de pouvoir faire ça avec nos jeunes conducteurs. Oui.
Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une dernière pause musicale. On va se retrouver pour la dernière partie déjà de cette émission sur ma route, toujours donc avec Monsieur Ruiz et Monsieur Roche. A tout de suite.
Yeah, yeah, yeah. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu, suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu, et ça ira mieux. Les gens marchent droit devant, te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas, c'est pour aller plus loin. Accroche-toi à tes rêves, fais confiance au destin. T'inquiète, à deux, on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance toi, toi, toi. Et ça ira mieux. T'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, 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 et ça ira mieux. We'll be right back.
Et de retour dans l'émission Sur ma route, vous êtes toujours à l'écoute d'RTVFM bien évidemment. Nous allons parler dans cette émission de civisme, comportement et respect du code de la route. Vous êtes déjà dans la dernière partie si vous nous rejoignez. Vous pouvez, je rappelle, retrouver cette intégralité de cette émission sur notre site internet www.rtvfm.net. Nos intervenants pour cette émission, je le rappelle, c'est Antoine Ruiz, donc qui est intervenant et surtout consultant en sécurité routière en Vaucluse et intervenant départemental de la sécurité. Et puis nous avons toujours à nos côtés Paul Roche, qui est gérant et moniteur de l'auto-école Marco Polo, qui se trouve bien évidemment à Carpentras et Sarrian. Une autre question voilà, qu'on souhaitait vous poser dans cette émission Sur ma route, est-ce qu'en ce moment vous voyez des comportements, est-ce qu'il y a des comportements différents des usagers sur la route en cette période de confinement? Monsieur Roche, Monsieur Ruiz peut-être?
Alors on a déjà des retours par le biais du ministère de la sécurité routière. Donc effectivement on a une forte augmentation des excès de vitesse en général et des grands excès de vitesse en particulier. Voilà, on est à au moins 50% de plus par rapport au même mois l'année dernière. Après on constate aussi qu'il y a de plus en plus de refus de priorité. C'est aussi à prendre en compte. D'une manière générale, les règles de la route sont moins bien respectées dans leur généralité.
Monsieur Roche, est-ce que vous aussi, alors là, on est d'accord, vous faites passer le permis, vous assistez justement pour les personnes qui passent le permis, comment ça se passe un petit peu en cette période de confinement?
Malheureusement, donc on est privé de leçons de conduite, donc on peut accompagner nos candidats pour les examens, mais on n'a plus le droit de faire des leçons de conduite. Donc une situation un peu particulière, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on peut constater qu'il y a une baisse d'accidentologie, forcément, par une baisse de fréquentation des usagers, donc moins de circulation, moins d'accidents.
Et on appuie plus facilement sur la pédale, peut-être, on
accélère. Forcément, et puis voilà, du fait d'une baisse du trafic, les automobilistes sont tentés d'accélérer, et donc ça donne des accidents plus mortels, effectivement. Moins d'accidents en général, mais plus mortels.
Et justement, on peut rappeler où c'est qu'il y a le plus d'accidents? Sur des parcours qui sont en ligne droite, on disait tout à l'heure, peut-être hors antenne?
Oui, c'est ça. En fait, il y a quelques critères. Si vous les réunissez, vous avez de fortes probabilités d'avoir des accidents graves ou mortels. C'est une ligne droite, plate, une belle route bien entretenue, un goudron parfait. Il fait beau dessus, il y a peu de trafic, et c'est une route qu'on connaît bien, et sans intersection. Alors là, si vous avez toutes ces circonstances, vous pouvez quasiment être sûr que quand ça tape fort, et donc ce sera du lourd.
Et donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, c'est pas quand il y a le plus de trafic qu'il y a le plus d'accidents, et c'est pas là où il y a le plus d'accidents, on va dire, graves.
Oui, voilà. Il faut bien dissocier l'accident qui casse du matériel de celui qui fait des blessures, voire des tués. Lorsque le trafic augmente, effectivement, la cohabitation devient un peu plus compliquée, et ça frite un petit peu. Mais ça va être de la carrosserie, parfois du corporel léger. Du moment que les comportements deviennent plus à risque, là, on monte dans la gravité. Donc, si vous voulez, le trafic, notamment, la densité de trafic, c'est toujours inversement proportionnel à la gravité des accidents. Plus il y a de monde, moins il y a de morts. Vous enlevez du monde sur la route et vous avez le taux de mortalité qui regrimpe en flèche.
Monsieur Ruiz, Monsieur Roche, quel conseil pouvez-vous donner à nos auditeurs pour être plus vigilants en ce moment, au vu de la saison et également des animaux, et également au vu de la situation sanitaire et des hôpitaux qui sont surchargés?
Donc, si... Effectivement, si on peut faire un bilan de tout ça, donc on pourrait se dire que c'est à l'approche des intersections qu'il y a le plus d'accidents, notamment en règle des confusions, en règle des priorités. Déjà ralentir l'approche des intersections, notamment de nuit, où parfois les usagers ont tendance à prendre certaines libertés avec les feux rouges, griller les feux rouges. Être très très vigilant en général, mais encore plus aux intersections.
Et par rapport aux animaux, actuellement, c'est la période où ça bouge pas mal, entre la reproduction, la chasse, etc. Donc c'est souvent entre chiens et loups, voire en pleine nuit, qu'on a des gros animaux, des chevreuils, des sangliers, des cerfs qui peuvent traverser les routes. Il faut toujours se méfier quand on passe à hauteur de zones boisées ou de certains types de cultures. On se méfie pas assez, par exemple, des champs de maïs ou des pommiers, parce que des sangliers peuvent toujours surgir... entre. Alors le conseil à donner, c'est très clair, hein, en cas de
collision,
de risque de collision, je dirais, parce qu'on va essayer d'éviter la collision.
Oui, complètement.
Surtout n'essayez pas d'éviter l'animal. C'est le coup de volant, c'est la dernière chose à faire. C'est toujours le freinage d'urgence. Et si votre freinage vous amène à descendre en dessous de 50 km/h, à ce moment-là, vous pouvez tenter un évitement, mais surtout ne jamais envoyer le volant. Moi, je recommande aussi, lorsqu'on est dans une ligne droite déserte, d'aller très doucement, en dessous de la limitation de vitesse. Parce que c'est l'endroit idéal pour qu'un animal traverse. À partir du moment où ils n'entendent plus le bruit des voitures, le bruit du trafic, ils se sentent plus enhardis pour traverser. Alors que quand vous avez un flux permanent de véhicules, à moins qu'il y ait une battue, à moins qu'il y ait des chasseurs, l'animal ne traversera pas. Donc l'autre circonstance aussi, c'est ça. C'est si vous avez repéré des chasseurs à un endroit, faites attention, vous savez qu'un gros animal peut surgir.
Et justement, si on vient à rentrer en collision avec un de ces animaux, c'est quoi la première réaction à avoir?
Alors, première chose à faire, vous mettez votre gilet. On a des gilets haute visibilité dans les voitures, ils sont obligatoires, ils servent à ça. Vous mettez votre gilet parce qu'il y a de fortes chances que ce soit entre chien et loup la nuit, donc vous ne sortez pas de la voiture si vous n'avez pas le gilet. Vous l'enfilez, après vous n'allez surtout pas voir l'animal, parce que s'il est encore vivant et qu'il est agressif, ça peut se retourner contre vous. Vous allez tout de suite baliser l'endroit. Si vos feux de détresse ne fonctionnent pas, prenez vite votre triangle, allez le mettre 50 mètres avant la voiture. Parce que pensez au suraccident, vous pouvez vous-même être victime d'un choc. C'est ainsi quand on voit à quelle vitesse ça roule la nuit. Moi, je ne laisserai pas ma voiture au milieu de la route sans le triangle et les feux de détresse. Et après, vous appelez le 112. Voilà. Il faut appeler le police, gendarmerie, ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes. Prenez bien des photos de la collision. S'il reste des touffes de poils, gardez les touffes de poils pour l'assureur, parce que vous savez qu'à ce moment-là, le fonds de garantie pourra couvrir l'accident. Mais si vous n'avez pas de preuves ou de témoins, c'est un peu compliqué.
Oui, parce que le sanglier peut repartir malheureusement plus loin, en tout cas mourir plus loin.
Oui, c'est ça. Ils ont souvent des hémorragies internes et les chasseurs les retrouvent quelques centaines de mètres plus loin parfois. Mais oui, effectivement, le sanglier peut repartir, on n'a pas la preuve. Et de toute façon, on n'a pas le droit de le ramasser. Oui. À moins, pour les gros animaux, vous avez le droit si les forces de l'ordre vous autorisent. Voilà, vous pouvez faire la demande.
L'ONF peut-être qui doit s'en occuper dans ce cadre-là, je pense.
Alors, l'ONF, c'est différent. C'est leur assurance dans ce cas-là qui va s'occuper de l'indemnisation. Non, ça dépend. Là, ce que je vous ai dit n'est pas vrai partout parce que ça dépend des zones. Si vous avez une société de chasse qui gère le lieu, c'est différent. Enfin bon, quoi qu'il en soit, pour les gros animaux, c'est les forces de l'ordre qui s'en occupent, qui vous donnent l'autorisation ou pas de partir avec. Sinon, effectivement, ce sera l'ONF ou la société de chasse qui récupérera le cadavre de l'animal.
En tout cas, c'était très bien de rappeler ces conseils justement en cas de collision, comportement à avoir en tout cas.
Monsieur Ruiz, quel lien avez-vous avec les auto-écoles au niveau de la formation de moniteurs d'auto-école et également de l'animation de stages de récupération de points?
Alors effectivement, ça fait partie de mon métier depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est qu'au départ, je suis diplômé pour former des enseignants de la conduite en centre de formation. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup plus de formation continue des enseignants, à la fois pour ceux qui veulent exploiter une auto-école, lorsqu'ils doivent renouveler leur agrément préfectoral, ils ont besoin de faire une formation obligatoire que je dispense. Et puis également, les toutes premières formations. Aujourd'hui, vous avez un certificat de qualification professionnelle qui permet de gérer un établissement d'enseignement de la conduite. Donc voilà, je forme à un de ces modules qui y prépare. Et puis après, ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'il y a de plus en plus de formations continues, non obligatoires, optionnelles, mais autour de la pédagogie. Et vous avez beaucoup d'enseignants qui se forment pour se perfectionner aux différentes techniques d'animation, parce qu'on sait que la pédagogie en salle et tout ce qu'on peut faire en pédagogie de groupe, c'est le meilleur vecteur pour changer les comportements. Pas que chez les jeunes, chez tout le monde en général. C'est pas tellement dans la voiture, en tête-à-tête, qu'on va réussir à changer les comportements. On va donner les savoir-faire, on va transmettre les savoir-faire de conduite, mais c'est pas avec ça qu'on fera réfléchir aux enjeux de la sécurité routière et surtout l'enjeu collectif. Voilà, donc ça fait partie des actions que je mène. Et puis également, oui, j'ai un agrément préfectoral qui me permet d'animer des stages dans le cadre du permis à points ou des stages judiciaires, les stages que la justice peut imposer en peine complémentaire.
Voit-on moins de pertes de points chez les usagers qui ont fait des stages de récupération ou autre par la suite?
Alors, on sait que les deux tiers des personnes qui font des stages, on ne les revoit plus. Voilà, il y a à peu près un tiers qu'on risque de revoir dans les années qui suivent. Mais quand je dis dans les années, c'est-à-dire certains, alors une toute petite minorité, je crois que j'avais vu un chiffre, c'était du 0,02% des usagers qui vont enchaîner plus de 3 stages dans leur vie de conducteur. Mais sinon, la grande majorité des gens, ils viennent faire un stage et puis on ne les voit plus. Moi, ça fait maintenant 15 ans, bientôt 16 ans que j'anime ce type de stage. Et effectivement, des primo-stagiaires, des personnes qui font leur tout premier stage de leur vie, j'en ai assez régulièrement. Et c'est pour certains, ça fait déjà 15, 20, 30 ans qu'ils sont sur la route et pour autant, ils n'avaient pas eu besoin de faire un stage auparavant. La perte de points, elle se fait pas de la même manière pour tout le monde. Vous pouvez avoir des gens qui sont dans des habitudes transgressives. Et à force de transgresser les règles, on finit bien par perdre quelques points à gauche, à droite. Mais pour certaines personnes, ça peut être aussi un moment particulier de leur vie, un événement qui les met un petit peu à l'ouest, comme qui dirait. Et ils vont enchaîner quelques semaines ou quelques mois de pas de chance, entre guillemets. Sauf que ce pas de chance, tant que c'est de la perte de points, ça va. Et malheureusement, ce que je vous dis, on le trouve aussi dans l'accidentalité. On sait que des personnes, dans une période compliquée, peuvent aussi avoir des accidents. La perte de points étant peut-être l'alerte qui permet d'anticiper le risque d'accident.
Nous arrivons presque au terme de cette émission Sur ma route, mais juste avant, peut-être une dernière question à vous poser pour nos auditeurs. Les comportements routiers ne sont-ils pas significatifs d'un état social, sociétal? Peut-être Monsieur Roche.
Oui, effectivement, ça reflète la vie de tous les jours. Donc forcément, il ne peut pas y avoir d'incivilité dans la vie de tous les jours. Il y a un comportement tout à fait sain sur nos routes. Donc effectivement, ça reflète, ça reflète la société, oui, effectivement.
Je crois que le critère essentiel, c'est l'attention, le soin qu'on est prêt à avoir vis-à-vis des autres. Et on va retrouver ça dans la société comme sur la route. C'est-à-dire que si dans ma philosophie de vie, je suis prêt à être attentif aux autres personnes qui m'entourent, sur la route, je vais embarquer cette même attention. Si, à contrario, dans la vie quotidienne, c'est un petit peu tout pour moi, sur la route, ça sera pareil.
Et donc, si je possède aussi une grosse voiture, est-ce que j'ai les mêmes comportements que ceux qui ont des petites voitures? Est-ce que ça peut rentrer en compte aussi? Est-ce que les comportements ont une incidence à ce niveau-là ou pas?
C'est pas tellement la taille de la voiture qui fait la différence, c'est ce qu'on projette sur la voiture. C'est-à-dire que ce serait un peu simple de faire des catégories, mais le conducteur va projeter quelque chose sur sa voiture. Il en a des attentes. Si par exemple, je pense à deux profils différents, vous avez beaucoup de femmes citadines qui préfèrent circuler dans un SUV en ville pour avoir une meilleure vision sur ce qui se passe devant et se sentir plus en sécurité dans une sorte de coffre-fort roulant. C'est pas la même chose qu'un homme qui va prendre une grosse berline allemande parce qu'il a envie de se faire des sensations et qu'il a besoin de prestige. Vous voyez ce que je veux dire? Donc selon ce qu'on projette dans la voiture, ce sera très différent.
Et en tout cas, ce sera les mots de la fin, en tout cas pour cette émission Sur ma route. Donc merci à nos deux intervenants d'aujourd'hui, donc Antoine Ruiz et Paul Roche. Donc peut-être aussi peut-être un dernier mot à rajouter pour nos auditeurs, pour les prochains jours, sur les personnes qui prennent la route régulièrement. Peut-être Monsieur Ruiz, Monsieur Roche.
Alors moi j'ai envie de faire un parallèle entre cette crise sanitaire et ce qui se passe sur la route. Dans tous les cas, respecter les règles, garder des distances.
Et Monsieur Roche peut-être?
Oui, rester vigilant, rester courtois, rester attentif. Donc c'est les maîtres mots de la sécurité routière.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle Antoine Ruiz, donc, qui est consultant en sécurité routière en Vaucluse et intervenant départemental de la sécurité routière. Merci, en tout cas, d'être venu devant les micros d'RTVFM. Merci aussi à Monsieur Paul Roche, donc, qui est gérant et moniteur de l'auto-école Marco Polo à Carpentras et Sarrian. Bon courage aussi après ce déconfinement pour la reprise. Et merci à tous les deux. Puis on espère à très bientôt sur l'antenne d'RTVFM. Merci aussi à Alexandre de m'avoir accompagné pour cette émission. Et à très bientôt à tous nos auditeurs. Restez bien sûr à l'écoute d'RTVFM. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
RTVFM vous a présenté l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse.